Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de nous recevoir chez vous, il est 18h à Bamako et partout au Mali. Bonsoir à tous, le sommaire. Le calme est revenu à Bamako après la double attaque contre des cibles militaires hier mardi. Mais toujours pas les bilans humains de ces attaques revendiquées par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. La célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali va-t-elle susciter de l'engouement chez les citoyens cette année? À l'intérieur du pays, certains restent sceptiques quant à la célébration en pompe du 22 septembre. On en parle dans ce journal. Imiter les autres dans pratiquement tous les aspects de la vie, un vice chez certains, mais à quel prix? Les zooms sur du jour nous les dira. Le développement de ces titres, c'est tout de suite avec Lala Diarra Touré, Philippe Amélé pour la mise en onde. L'attaque terroriste qui a visé hier la zone aéroportuaire et l'école de gendarmerie de Faladji a occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. C'est ce qui ressort du communiqué du chef d'état-major général des armées, lu hier à la télévision nationale. Le Jenim, groupe terroriste de la filiale d'Al-Qaïda dirigée par Yada Gali, a revendiqué cette double attaque. Le point avec Khalifa Guita.
Ces attaques ont occasionné des pertes en vie humaine, notamment des élèves gendarmes, a indiqué un communiqué du chef d'état-major. Ce dernier a d'ailleurs salué les sacrifices héroïques de ces élèves gendarmes. Toujours selon le communiqué, des blessés sont aussi enregistrés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. L'état-major général des armées rassure que ceux-ci reçoivent des soins actuellement et un dispositif de soutien psychologique a été mis en place pour les élèves gendarmes, le personnel et les familles des victimes. Suite à ces attaques, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale a ouvert une enquête. Objectif, faire la lumière sur cette affaire, identifier et interpeller les présumés auteurs, co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Jenim, affilié à Al-Qaïda et dirigé par Yad Agali, a revendiqué ces attaques. Plusieurs associations, mouvements et partis politiques du Mali ont dénoncé et condamné cette double attaque. L'ambassade de la Turquie à Bamako et la CEDEAO ont également manifesté leur compassion au peuple malien.
Et au lendemain de cette double attaque, les riverains de la zone aéroportuaire invitent les autorités à renforcer la sécurité en multipliant les patrouilles nocturnes. Ils estiment que cela permettra d'éviter les mauvaises surprises. Ils s'expriment au micro de Khalifa Guita.
Ce qui nous a surpris, c'est comment ils ont pu atteindre l'aéroport. Les forces armées maliennes doivent mener des enquêtes poussées pour savoir comment c'est arrivé. Les autorités font de leur mieux, mais qu'elles redoublent d'efforts.
J'habite à Sénou. Ce qui a été fait, je ne suis pas content. Je recommande à l'État de renforcer la sécurité de l'aéroport.
C'est triste ce qui est arrivé hier. L'armée monte en puissance. On fait beaucoup d'exploits une fois de plus. Donc il faut vraiment renforcer le dispositif sécurité, multipliant les fouilles au niveau des frontières, au niveau des services publics, surtout à l'aéroport. Vraiment, l'aéroport, c'est un point très sensible avec les renforcements des patrouilles mixtes au cours de nuit. C'est pas facile de contrôler à 100% le terrorisme, mais on peut quand même minimiser.
Vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Parlons toujours des attaques terroristes de ce 17 septembre 2024 contre l'école de la gendarmerie et l'aéroport international président Modibo Keïta Senou qui ont suscité des interrogations du côté des experts en sécurité. Ces spécialistes en sciences politiques et en gouvernance invités dans l'émission du Grand Dialogue de Studio Tamani sont tous unanimes qu'il faut renforcer les dispositifs de sécurité dans les lieux stratégiques de la capitale. Suivons ces avis dans ce compte-rendu de Mamadou Samasekou.
Pour Fatmata Traoré, experte en gouvernance politique, ces attaques ont démontré des failles au niveau des postes de contrôle. Selon elle, il est temps de changer les méthodes de fouille des véhicules au niveau des postes stratégiques.
J'ai toujours déploré le fait que, par exemple, pour nos postes de contrôle, à chaque fois qu'on te fait arrêter, on sait exactement avec précision les endroits qui seront visités. Cela n'est pas normal dans un pays qui est en pleine guerre, parce qu'on peut facilement savoir que c'est ici qu'on va aller regarder et mettre ailleurs.
De son côté, l'expert en sciences politiques, Dr Hamadou Touré, invite les forces de sécurité à augmenter la vigilance. Selon les chercheurs, ces attaques montrent le déplacement de la nuisance des groupes terroristes vers la capitale et environ.
Les modes d'observation, les modes de recrutement montrent que la guerre asymétrique a quitté le nord, passant par le centre, maintenant c'est à Bamako. Donc c'est pour dire que malgré l'AIS, malgré les patrouilles mixtes, malgré la force conjointe, les groupes djihadistes auraient toujours des moyens d'action.
Rappelons que les forces armées maliennes ont rapidement maîtrisé la situation en neutralisant les terroristes et sécurisant les périmètres.
Autre sujet dans ce journal, c'est le procès de l'affaire dite l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires qui s'est ouvert ce mardi 17 septembre 2024 à la cour d'appel de Bamako. L'audience a été renvoyée au 24 septembre 2024 par la cour à la demande du ministère public et des avocats de la défense à cause de la situation sécuritaire tendue. Cette affaire est l'un des dossiers les plus attendus de cette session spéciale de la cour d'assises sur les crimes économiques et financiers. Les faits remontent à 2014 sous le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les enquêtes ont révélé des irrégularités de 28,5 milliards de francs CFA dans l'achat de l'avion présidentiel et 69 milliards de francs CFA pour les équipements militaires. Moussa Malé Sissoko est à la cour d'appel pour Studio Tamani.
C'est aux environs de 13h10 que Mme Bouare Félix Sissoko et Mohamedou Camara, respectivement ancienne ministre et l'ex-chef de cabinet d'Ibeka, sont entrés dans la salle d'audience. Nohum Dabitao et Mustapha Drabo, deux officiers supérieurs à leur tour, sont arrivés une vingtaine de minutes plus tard. L'ex-ministre de l'économie et des finances, en prison depuis 3 ans, affiche un air serein et combatif. Habillée en basin de couleur bleu ciel, Mme Bouare Félix Sissoko échange des poignées de main avec ses proches et parents. Elle et sa défense ne cachent pas leur joie pour l'ouverture de ce procès. L'audience démarre à 13h40. Les accusés sont appelés à la barre. Le parquet demande le renvoi du procès. Les avocats de la défense aussi formulent la même demande. Une demande à laquelle la cour accède et décide de renvoyer l'audience au 24 septembre 2024. Il faut rappeler que d'autres accusés sont cités dans cette affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Il s'agit de Mustapha Ben Barka, Soumaïla Diaby, Nohum Kouma, Amadou Kouma, Sidi Mohamed Kanyassi et Marc Gaffa Joly. Ils sont tous inculpés de faux en écriture, usage de faux, atteinte au bien public, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Selon l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour suprême, l'action publique est éteinte à l'égard de Soumaïlou Boubey Maïga pour cause de décès dans ce dossier.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Il est 18h07, vous écoutez Studio Tamani. Le Mali va célébrer ce dimanche 22 septembre 2024 le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration qui intervient dans un contexte où les autorités multiplient les efforts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. À l'intérieur du pays, certains citoyens restent sceptiques quant à la célébration en pompe du 22 septembre cette année. Dans la rubrique On en parle du jour, écoutons les propos de ces populations de Kai, Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Anso. Une réalisation de Assetou Kanté avec l'appui de nos correspondants locaux.
On est prêts de fêter le 22 septembre.
À Mopti, nous devons tout faire pour célébrer le 22 septembre, une fête qui restera dans les annales.
À Koulikoro, il n'y a pas assez d'engouement. Cela est dû aux autorités elles-mêmes qui nous demandent chaque année de ne pas célébrer avec éclat.
On doit le fêter avec toutes les éclats, parce que c'est ça qui montre même que le Mali a retrouvé sa souveraineté.
Pour moi, on ne peut pas arrêter fêter le 22 septembre avec honneur, parce que quand vous prenez les cercles dans Songo, vous allez trouver que la plupart pas de communautés ne sont pas chez elles.
La fête de l'indépendance doit normalement être fêtée de façon grandiose parce qu'aujourd'hui, toutes les fêtes peuvent être fêtées à Tombouctou.
La situation du pays ne nous permet vraiment pas de faire des rassemblements.
Je vous le disais au sommaire, la rubrique Zoom sur s'intéresse aujourd'hui aux personnes qui aiment imiter les autres dans tout. Parfois, cette attitude peut avoir des conséquences pour ces personnes prêtes à tout pour faire comme les autres. Nous retrouvons Assetou Kanté.
Des personnes qui veulent faire tout ou avoir tout comme leurs amis, parents ou voisins, il y en a beaucoup. Certains sont même prêts à s'endetter. Il est presque impossible de s'offrir de beaux habits ou même une nouvelle voiture s'ils ne font pas pareil. Yakuba est le prototype de ce genre de personnes. Il aime imiter tout ce que son voisin Bekay fait. Dernièrement, Bekay a acheté une nouvelle voiture. Yakuba vient le voir. « Voisin, tu as eu une nouvelle voiture ? » Elle a dû te coûter cher, hein ? En parlant à son voisin, Yakuba pense déjà à comment lui aussi peut s'offrir une nouvelle caisse. La voiture de Bekay est jolie dès. Non, il faut que je m'en achète une aussi. Mais comment faire tout de suite? Il passe la nuit à réfléchir à son nouveau projet. Le matin, il part à la banque pour un prêt afin de satisfaire son désir. Mais notre ami Yakuba ne savait pas qu'il était en train de se créer des problèmes, car les dépenses ont commencé à s'accumuler. Au bout du compte, il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. La charge de la famille et le remboursement du prêt bancaire. Il faut savoir que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et à force de vouloir ressembler aux autres, on finit par perdre notre propre identité.
Merci à Assetou Konté. Comme on le dit si bien, n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Retrouvez désormais nos productions sur WhatsApp à travers les numéros suivants 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Nous recevons à présent Mariam Koulibaly pour l'introduction du débat. Mariam, bonsoir. Thème et invité du jour.
Après 64 ans d'indépendance, le Mali toujours en marche vers sa souveraineté. C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Bintou Founes Samake, militante pour les droits de la femme, professeur Abdramane Sylla, historien, Daouda Moussa Kone, économiste.
Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait donc retenir de ce journal. Vous pouvez les réécouter gratuitement et les magazines qui vont suivre en appelant le service Kounafouni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Merci pour votre constante fidélité. Bonne soirée à tous. L'hépatite B est une maladie infectieuse qui entraîne l'inflammation du foie. Au Mali, sa prévalence est de 12% selon les responsables de la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites. Pourtant, la maladie reste encore méconnue par une bonne partie de la population. D'ailleurs, les spécialistes alertent sur le faible taux de dépistage de la maladie et l'insuffisance de spécialistes en santé de cette maladie, alors que les malades se plaignent de la cherté des soins. Hépatite B, une maladie qui tue en silence, c'est un magazine santé réalisé par Gérard Samaïga avec le concours des correspondants locaux.
C'est quand j'ai été en Europe pour d'autres raisons médicales qu'on a fait beaucoup de tests. En ce moment, on m'a dit « Ah, madame, vous développez l'hépatite. » Tu attrapes la maladie sans le savoir. Ça n'a pas de signe.
Comme l'a témoigné cette dame atteinte de l'hépatite B, cette maladie est un problème de santé publique au Mali. Ces personnes interrogées à Bamako, Mopti et Tombouctou prouvent que cette maladie est inconnue par la population, d'où la problématique de son faible taux de dépistage dans le pays.
Je n'ai jamais fait les tests de l'hépatite et aucun de mes proches ne l'ont fait.
Un de mes amis et son grand frère ont perdu la vie à cause de l'hépatite B. C'est la dernière analyse qui nous a montré que c'est l'hépatite B.
Je ne connais pas le signe de l'hépatite B.
Selon les spécialistes, elle peut se transmettre par plusieurs manières, dont de la mère à l'enfant. Le dépistage reste la meilleure alternative pour se prémunir contre ce virus. Insiste Dr Yakuba Sissoko, médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales au CHU du Pongi.
Donc ce virus se transmet par le sang et la voie sexuelle. La mère à l'enfant, c'est la voie salivaire. Avec nos pratiques, le même pot sur la jarre à la maison, c'est surtout ça qui fait que la fréquence est très élevée dans nos contrées. L'hépatite B et C ont la particularité de provoquer des complications mortelles. C'est le foie qui va devenir dur comme la pierre, on parle de cirrhose, ou bien ça va devenir une tumeur, le cancer primitif du foie qui tue.
Au service hépato-gastro-entrologie du CHU Gabriel Touré, l'hépatite B est présente chez 60% des patients souffrant de problèmes de foie. Déplore professeur Moussa Diko, médecin spécialiste.
Souvent, les gens ils font un traitement contre le paludisme ou la fièvre typhoïde, alors que le virus de l'hépatite B est en train de se développer en sourdine. C'est lorsqu'il y a une maladie avancée que les manifestations réelles vont commencer, c'est-à-dire de l'eau dans le ventre. En ce moment, il n'y a pas un traitement pour guérir complètement le patient.
Malgré les efforts du gouvernement, dont la subvention du tenofovir, un médicament contre l'hépatite B, les difficultés persistent. Les malades de l'hépatite regroupés en association SOS Hépatite regrette la cherté du traitement. Fatoumata Guindo, vice-présidente de l'association.
Nous avons fait beaucoup de plaidoyers pour avoir accès aux médicaments. Auparavant, il fallait venir à Bamako. Nous faisons le plaidoyer pour qu'il n'y ait pas de transmission mère-enfant. Notre problème, c'est vraiment l'accès aux médicaments. Et le reste des dépistages ou le contrôle des charges virales, c'est toujours cher.
Le ministère de la Santé compte introduire dans son programme de vaccination un vaccin contre l'hépatite B dès la naissance à partir de 2025. Mohamedou Diop, coordinateur adjoint de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites.
La prise en charge des hépatites virales est réalisée dans toutes les structures de santé au Mali. Cependant, il y a des défis encore, notamment la faible mobilisation de ressources pour l'achat des intrants et des médicaments contre les hépatites virales, l'insuffisance de partenaires intervenant dans le domaine et la faible couverture du dépistage et du traitement. La formation des prestataires sur la prise en charge.
À noter qu'il existe un vaccin contre l'hépatite B avant la contamination. Mais le faible taux de dépistage reste la principale lacune. Pour atteindre l'objectif mondial de l'élimination de l'hépatite B chronique d'ici 2030, selon l'OMS.